Critique par le père Philippe Saint-Jodard, le 6 février 90.
La dernière fois, nous avions vu un peu ce qu'est le mystère de l'adoration. Divine crainte en face de Dieu. C'est le propre de l'adoration. Reconnaître que Dieu passe devant. Vous voyez, cet acte de politesse à l'égard de Dieu. Dieu passe devant. Messire Dieu, premier servi. C'est, il passe devant. On le laisse passer devant. Profondément, puisqu'on lui offre tout ce que nous sommes. On est totalement dépendant de lui et on aime cette dépendance. On n'est pas dans un état de révolte à l'égard de cette dépendance. On aime cette dépendance parce qu'on sait que cette dépendance se fonde sur un acte d'amour de la part de celui notre Créateur et notre Père. Un acte d'amour, nous avons été créés gratuitement et par amour. Nous avons été créés dans la lumière de Dieu et par pur amour. Nous ne pouvons rien donner à Dieu qui ne nous a pas été donné. Nous ne pouvons rien ajouter à Dieu. Parce que Dieu est infini. Donc on touche le mystère de la gratuité absolue de l'amour divin par l'adoration. Et on se connaturalise à cette gratuité. Et on touche la majesté souveraine de Dieu dans cet amour. C'est là où l'adoration met dans notre cœur ce tremblement, ce tremendum, ce tremblement divin de la crainte de Dieu pour laisser Dieu passer devant. Mais dans l'amour, il faut bien comprendre, ce n'est pas du tout une attitude de celui qui a peur de Dieu. Le péché nous coupe de Dieu. Et c'est une offense à cet amour. Alors nous met dans cette peur. Adam et Ève, après leur faute, ont peur de Dieu. Ils entendent les pas de Dieu, mais ils se cachent. L'adoration, c'est s'ouvrir à Dieu. C'est pas se cacher. On sait qu'on ne peut pas se cacher. de Dieu. Alors, il y a cette ouverture profonde de notre intelligence et de notre cœur. On se met en présence de Dieu. Et se mettre en présence de Dieu, c'est juste l'inverse de se cacher. Quand on se cache, justement, on ne veut pas subir le regard de celui qui est proche de nous. En présence, on se met sous son regard. Et dans l'adoration, on veut se mettre sous le regard de la sagesse de Dieu, de la sagesse du Créateur et du Père, pour que tout en nous soit pris par cette lumière et soit dans cette lumière. L'adoration, à ce point de vue-là, nous purifie très radicalement, parce qu'il nous met dans cette limpidité de Dieu. On rejoint le regard de sagesse de Dieu. Et rejoindre le regard de sagesse de Dieu, c'est désirer que cette lumière du Créateur nous transforme complètement. Que nous soyons imprégnés de cette lumière. Et que ce soit dans cette lumière que nous puissions remonter jusqu'à lui. Vous voyez, c'est un acte d'amour avant tout, l'adoration. Mais c'est un acte d'amour qui cherche la lumière et donc qui a soif de la lumière, qui est attiré par cette lumière divine, par la sagesse de Dieu. C'est un acte d'amour qui porte notre intelligence. On offre son intelligence à Dieu parce que on est devant celui qui nous dépasse complètement. On adore Dieu dans sa transcendance et on respecte cette transcendance absolue de Dieu. On se met donc tout entier relatif à Dieu en reconnaissant que ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est de lui être relatif. C'est d'être dans cette dépendance profonde à son égard, de le laisser porter, nous prendre et être baigné de cette lumière, transformé par cette lumière. C'est très vrai que l'adoration par elle-même, pour nous, n'est pas lumineuse. Et ça, il faut l'accepter. Et on cherche la lumière et on tend vers la lumière. C'est pas un acte lumineux, la contemplation. Chercher elle aussi la lumière. Mais l'adoration radicalement cherche la lumière. C'est comme ça qu'on peut comprendre que l'adoration est ordonnée à la contemplation. Parce qu'il y a ce point de vue de la sagesse de Dieu qui est présente en nous. Mais ce n'est pas un acte lumineux. C'est très vrai, ce n'est pas un acte lumineux parce que je n'ai pas connaissance de ce qu'est Dieu. Je ne sais pas ce qu'est cet acte créateur. Je sais qu'il existe. Je l'affirme. Je suis porté par cet acte créateur. Je suis le fruit de cet acte créateur, son effet propre. Mais je ne sais pas ce qu'il est. Et je ne connais pas ce qu'est Dieu. Et j'accepte que Dieu soit un Dieu caché. Un Dieu qui me dépasse complètement. Vous voyez, c'est cet aspect très particulier de l'adoration qui est un acte propre à l'égard de Dieu. Je n'adore que Dieu. C'est un acte qui est réservé à Dieu. Complètement réservé à Dieu. Tandis que honorer, louer, ce n'est pas réservé entièrement à Dieu. On le verra. La louange et l'honneur qu'on rend à Dieu a quelque chose de particulier. Mais l'adoration, dans son acte propre, et réservé à Dieu. On n'adore que Dieu. Donc, c'est un acte qui, en lui-même, me fait accepter la totale obscurité. Je me cache dans le Dieu caché. l'amour qui dépasse l'intelligence, qui me permet de rejoindre l'acte créateur de Dieu. Mais je tends vers la lumière en offrant mon intelligence à Dieu, en offrant ce qui en moi est source de mon indépendance, source de ma liberté. Je l'offre à Dieu pour être entièrement entre ses mains. Autrement, je ne serais pas entièrement remis entre ses mains. S'il n'y a pas cette offrande de l'intelligence, cette offrande de notre jugement, de notre discernement. Donc c'est dans l'amour que se réalise cet acte avec cette soif d'être en présence de celui qui est la sagesse. Sagesse pour moi. Me crée dans sa sagesse. Il me crée dans sa gratuité, mais dans sa sagesse. Et donc, il me donne cette soif. Cet acte d'adoration est un acte libre, donc volontaire. Point de vue de mes actes humains, l'acte le plus radical qui soit, le plus fondamental qui soit. C'est pour ça qu'il faut y revenir tout le temps. On ne peut pas se passer de l'adoration. Parce que c'est fondamental. C'est tout notre être qui est offert à Dieu. Notre âme. Et notre corps, même si notre corps n'a pas été immédiatement créé par Dieu, par notre âme, il est totalement dépendant de Dieu, puisque par notre âme il existe comme une créature. Donc il est entièrement remis entre les mains de Dieu. Notre âme et notre corps, c'est un acte donc qui nous prend dans tout ce que comme l'acte d'adoration est l'acte premier qui spiritualise notre corps. C'est pour ça que quand on est tenté par le point de vue des passions, la seule manière de se rectifier, c'est d'adorer. Et la seule manière de lutter radicalement contre les passions, c'est d'adorer. C'est important de comprendre cette manière dont l'adoration spiritualise notre corps. Et il est évident qu'un climat comme le nôtre, dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un climat de sécularisation, donc de coupure à l'égard du Créateur, intensifie l'état affectif passionnel. Il n'y a plus cette rectification fondamentale de l'adoration. L'adoration rectifie fondamentalement notre corps et donc nos instincts. Vous n'avez pas de pouvoir direct sur vos instincts. Vous le savez bien. Et vis-à-vis de vos passions, vous n'avez qu'un pouvoir très politique, c'est-à-dire très faible. Quand l'imagination, pas la campagne, la pauvre passion, elle va dans tous les sens, c'est comme la feuille agitée, vous savez, dans la tempête, on voit les feuilles agitées. Et nos passions sont comme ça. On est agité. Et on va dans tous les sens. On ne sait plus très bien ce qu'on fait. Notre tête est un peu perdue. On est agité. Et on le dit du reste, on est agité. On est passionné, on est agité. Un cheval qui part à toute vitesse. Personne ne peut l'arrêter. Sauf l'adoration. C'est ça qui est très extraordinaire. L'adoration a un pouvoir radical sur nos instincts et nos passions. Pas directement, ce serait trop beau. Mais radicalement. Et si on continue les les actes d'adoration, on s'apaise. Mais quand vous cherchez comment dominer la passion, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'adoration. Et plus immédiatement, je dis bien plus immédiatement, que l'oraison. Comment voulez-vous faire oraison quand vous êtes dans un état de passion? C'est impossible, sauf une grâce très spéciale de Dieu. Tandis que l'adoration, qui est un acte d'offrant de tout notre corps et de toute notre âme, apaise radicalement. Et ça, nous pouvons toujours adorer. C'est fou de dire qu'on ne peut pas toujours adorer. Même quand nous sommes pris par le point du instinctif, on peut toujours adorer. C'est pas commode. Il faut une certaine maîtrise de soi. Un dominium. Mais on peut toujours adorer. On peut toujours se mettre à genoux et adorer. Et quand on est tenté, c'est ça qui brise, vous voyez. On verra la tentation, parce que dès qu'on parle d'éthique religieuse, il faudra voir ce que c'est que la tentation. La tentation de révolte. La tentation d'indépendance. La tentation d'autonomie absolue. Et c'est ce qui fait que quelquefois on a tellement de peine d'adorer. Et c'est très curieux de voir que ces états de révolte, d'autonomie absolue, existent plus chez quelqu'un qui non seulement est religieux, mais a été chrétien. Alors là, il y a un problème qu'il faut souligner. Qu'on verra en éthique chrétienne. En éthique chrétienne, on verra ça l'année prochaine. Parce que c'est très important de comprendre ça. La déchristianisation entraîne l'aspect de sécularisation. Alors que des cultures qui n'ont pas été chrétiennes restent plus facilement religieuses. Et ça, ça peut scandaliser, et ça scandalise. Comment se fait-il que l'Europe chrétienne est plus sécularisée que d'autres pays qui n'ont pas été chrétiens? Qu'il s'agisse de l'Afrique, par exemple, avec le point de vue animiste, qu'il s'agisse de l'Asie, qu'il s'agisse de l'Inde. C'est très, très curieux. Il y a un phénomène qui est très important pour nous à comprendre. Mais corruption optimi pessima. La corruption de ce qu'il y a de meilleur, c'est pire. Et il est évident que le chrétien qui devrait adorer plus, normalement, quand il n'adore plus, c'est plus grave que le païen. Ça, c'est un autre problème. Il faut comprendre que l'adoration fait que c'est notre corps et notre âme. Et par le fait même, quand on adore pour tout l'univers. Il y a quelque chose de très particulier dans l'adoration à ce point de vue-là. C'est que l'homme, par l'adoration, reconnaît qu'il est roi de l'univers par son esprit. Et donc, c'est tout l'univers qui doit remonter vers Dieu par l'adoration. On remet tout l'univers entre les mains de Dieu. Tout l'univers dans la mesure même où cet univers est proche de nous. Notre petite terre. Tout ce que nous voyons autour de nous, tous les animaux, tous les vivants, on adore pour tout l'univers. On n'adore pas pour soi tout seul. Parce que de fait, l'homme prend conscience que par par son esprit, il domine l'univers. Il y a quelque chose en lui qui le met au-dessus. Et donc, il doit remettre cela à Dieu. Oui. Notre univers dépend de Dieu. Il a été créé par Dieu. Il doit remonter vers Dieu par l'homme. Et l'homme, dans cet acte d'adoration, au point de vue religieux, joue un rôle de médiateur par rapport au monde physique, par rapport au monde des vivants. Et il est donc responsable de ce monde physique, responsable de ce monde des vivants, comme il peut l'abîmer, comme il peut le détruire. Et c'est vrai, le détruit, l'abîme, surtout aujourd'hui, avec les moyens beaucoup plus forts qu'il a. Il peut enlever cette harmonie et cet ordre et cette beauté qui est dans l'univers. Partout où il passe, ordinairement, il détruit pas mal. C'est pour ça qu'on aime bien être au désert où les hommes ne sont pas passés. C'est pour ça qu'on aime bien être dans les altitudes, sur l'Himalaya, où l'homme n'a pas beaucoup passé, le bulldozer n'a pas passé. Les autoroutes, c'est difficile hein, d'adorer avec les autoroutes, et d'offrir les autoroutes comme... Tandis que quand vous êtes dans une forêt tropicale, une forêt de l'équateur, alors on peut plus facilement adorer. C'est très curieux, comme le contexte naturel où l'homme n'a pas passé aide beaucoup à l'adoration. Ce qui montre que quand on adore comme roi de l'univers. C'est-à-dire en reconnaissant que tout cet univers, notre petite planète, dépend de Dieu. Et non seulement notre petite planète, mais le soleil et la lune et les étoiles et toutes les galaxies. Tout ça remonte vers Dieu. Et doit remonter vers Dieu par notre adoration. On ne sait pas très bien comment. Ça c'est sûr. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de dominium sur la Lune. On n'avait pas beaucoup de dominium sur le Soleil. Et sur les galaxies encore moins. Et cependant, vous devez offrir tout ça à Dieu. Ce qui montre bien que l'adoration n'implique comme connaissance qu'uniquement que Dieu est le Créateur. Comment ? Ça n'avance pas à grand chose. Je ne crois pas qu'un évolutionniste qui veut expliquer tout par l'évolution adore plus mieux qu'un autre. Et quelquefois l'évolution, c'est pour dire que, au fond, tout ça ne dépend pas directement. Alors que tout dépend de Dieu, dans son être à travers le devenir, même si le devenir a été très grand, peu importe, ça existe. C'est tout ce qui existe qui doit remonter vers Dieu, et qui doit remonter vers Dieu par l'acte d'adoration de l'homme. Il y a quelque chose de cosmique dans l'adoration. Et surtout aujourd'hui, on parle justement du point de vue interplanétaire. Il faut que notre adoration prenne tout cela. Qu'on ne laisse pas seulement le monde artificiel avoir cette dimension. Il faut que l'adoration prenne cette dimension, vous voyez. Donc, l'adoration passe à travers notre corps. Et par notre corps, tout l'univers. Toute notre sensibilité. Être purifié par l'adoration, doit être transformé par l'adoration. Donc c'est un acte humain par excellence. Alors avant de voir les conséquences de l'adoration, je voudrais simplement souligner quelque chose qu'aujourd'hui, beaucoup de psychologues, psychanalystes ont souligné, que le refoulement le plus terrible, c'est celui à l'égard de la... dimension de l'adoration, c'est empêcher l'homme de se stabiliser. Et donc, c'est le livrer à l'angoisse. Et ça, je crois que c'est très important de le saisir. Cette angoisse qui saisit notre monde et tout spécialement notre Europe. C'est un phénomène européen, l'angoisse, de l'Europe d'aujourd'hui et américain. C'est parce que cette Europe qui a été religieuse ne l'est plus. Phénomène de sécularisation. Elle ne reconnaît plus le Créateur. Elle ne veut plus le reconnaître publiquement, officiellement. On dit si, très bien, on respecte encore l'adoration. On respecte encore l'homme religieux. Mais on ne le respecte pas officiellement. Plus aucun chef d'État, à part des exceptions, la psychologie, la psy, certains pays, le roi des Belges. C'est vrai. C'est dans ses discours, reconnaît qu'il y a un Dieu. En Amérique, plus facilement. Au Canada, ça se faisait encore. Dans la Constitution du Canada. Il y a très peu de ça, très très peu. Il faut le reconnaître, ça fait partie d'un État qui se sécularise. Alors, c'est très significatif. Parce qu'il y a une dimension cosmique dans l'adoration. Alors, si on ne reconnaît pas ça, il y a un refoulement. On veut que l'adoration soit un acte tout intérieur. Et on ne reconnaît pas que l'adoration est un acte de l'homme avec son corps. Et petit à petit, on cache l'adoration comme n'étant qu'un phénomène de dévotion. Très facilement, on considère que l'attitude religieuse, c'est une attitude de dévotion. Alors vous êtes libre d'avoir vos dévotions. Et l'adoration n'est pas un acte de dévotion. C'est un acte radical de l'homme. C'est l'axe fondamental par où l'homme reconnaît qu'il est une créature raisonnable. Si l'homme a la stature droite, c'est pour adorer. Et la stature droite montre qu'il a son autonomie. Par le point de vue de l'adoration, il montre que cette autonomie est tout entière remise à Dieu. Elle vient de Dieu et elle retourne à Dieu. Alors, on a reconnu. Et je crois que c'est une étude qu'on doit faire de plus en plus profonde. Que le refoulement de cet appétit fondamental de la partie à l'égard du tout. Dans l'acte d'adoration, on reconnaît qu'on est une partie à l'égard du Créateur, qu'on a tout reçu de lui. Ce refoulement met dans l'homme quelque chose qui va l'angoisser. Le fruit de ce refoulement, c'est directement l'angoisse. C'est-à-dire l'oubli de l'expérience la plus radicale qui est en lui, qui est cette expérience de reconnaître la dépendance à l'égard d'un être suprême, le Créateur, Dieu. Cet oubli, est-ce que c'est ça l'angoisse? L'angoisse, c'est l'oubli de l'expérience. Et d'expériences qui sont primordiales. On n'atteint plus le réel. On est enveloppé d'imaginaire. Alors quand on est enveloppé de cet imaginaire, d'un point de vue affectif, on ne voit plus sur quoi on peut s'appuyer. On perd l'orientation de sa vie. Et si on perd l'orientation de sa vie, on est vraiment celui qui ne sait plus où il doit aller. Le pôle Nord, l'aiguille qui oriente, c'est l'adoration. Quelqu'un qui sait par expérience ce qu'est l'adoration, qui en a l'expérience actuelle, celui-là connaît l'orientation profonde de son. Il sait qu'il vient de Dieu et qu'il retourne vers Dieu. Il ne sait peut-être pas très bien la voie, le comment, mais il sait quelque chose de radical. Celui qui a perdu cette expérience intérieure et le sens de cette expérience intérieure et de cette expérience qui peut, du reste, se prolonger dans une liturgie, qui peut se prolonger à travers le corps, donc de vivre une expérience liée à tout le cosmos. Celui-là sait où il va, mais quand il a perdu cette expérience-là, il ne sait plus. Et c'est l'angoisse. C'est l'angoisse qui prend possession. Ça ne m'étonnerait pas que l'angoisse la plus fondamentale, ce soit justement cette sécularisation de l'être humain. Et cette sécularisation de l'être humain, c'est l'oubli de l'adoration. Alors, ça va se traduire par la peur de la mort. Les psychologues disent toujours que c'est la mort qui est source de l'angoisse. Et nous, au plan philosophique, on doit dire que c'est l'oubli de l'adoration. La mort, c'est second. C'est pas premier. Parce que ce n'est pas le but de notre vie. Ça fait partie du conditionnement de notre être, la mort. On est des êtres qui devons mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est de donner un sens à la mort. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a après la mort. Ce n'est pas la mort comme telle. Alors que la mort angoisse, c'est sûr, la mort angoisse, parce qu'on n'a pas l'expérience. Mais alors là, ce n'est pas l'oubli de l'expérience. C'est parce qu'on n'a pas l'expérience. Mais c'est très curieux que c'est toujours la chose. Mais l'oubli de l'expérience fondamentale, c'est par rapport à l'adoration. Et c'est ça qui angoisse de la manière la plus radicale l'humanité. Si on veut lutter contre l'angoisse, il faut adorer. Il faut adorer, j'allais dire, d'une manière telle que progressivement l'angoisse disparaît. Pas croire que c'est une qualité d'être angoissé. Ah, pour certains psychologues, c'est une qualité. Quand vous dites à un psychologue que vous n'êtes pas angoissé, il vous regarde, vous dites, tiens, vous êtes drôle, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Oui, parce que quand on est angoissé, on va voir les psychologues. Donc il vous manque ce contact avec les psychanalystes. Et comme être psychanalysé, c'est la béatitude de notre monde d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas angoissé, il vous manque d'avoir été psychanalysé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la psychanalyse ne vous rend pas l'adoration. Donc ce qui montre qu'elle ne vous retire pas l'angoisse. Être psychanalysé ne supprime pas la mort. Et ne vous donne pas l'adoration. Donc, ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut être qu'un remède, un palliatif, passager, momentané. La vraie manière de dépasser les angoisses, c'est l'adoration. Il n'y en a pas d'autre. Il faut savoir ça. Il faut le vivre soi-même. Il faut apprendre à ceux qui sont angoissés d'adorer s'ils ne l'ont pas appris avant. On dit non, il faut l'apprendre avant. Pour quand l'angoisse arrive, on soit capable d'adorer. Parce que par l'adoration, voyez, la mort est dépassée. C'est ça qui est extraordinaire. L'adoration permet le dépassement de la mort. Quand j'adore, j'offre ma vie à Dieu. Et donc j'offre ma mort. On peut offrir sa mort à Dieu dans l'adoration. La mort fait partie de mon être. La mort fait partie de cette union de l'âme et du corps. Puisque la mort fait partie de cette union de l'âme et du corps, puisque dans l'adoration j'offre mon corps, je peux dire que par l'adoration j'offre ma mort à Dieu. Je peux me servir de la mort comme d'une matière à adorer. D'un point de vue-là, l'adoration me permet de dépasser la mort et me permet de rejoindre la source. Je ne l'expérimente pas, je reste dans l'obscurité, mais de me mettre tout proche. Quand on adore, vous voyez l'expression du psaume, on est comme un tout petit enfant près du cœur de sa mère. Quand on adore, on est comme un petit enfant tout près du cœur de sa mère. On ne voit pas. On est tout proche. Il y a une présence. On est présent au Créateur. On est présent à la source de notre être, de notre vie. Et par le fait même, parce qu'on est présent, l'adoration nous met au-delà du vieillissement interne. Notre âme se rajeunit quand elle adore. Notre âme se rajeunit comme l'air quand il s'approche du soleil, pour prendre l'exemple symbolique de l'Écriture. Vous voyez, tout vieillissement provient d'un manque d'adoration. Tout vieillissement intérieur. Le vieillissement intérieur provient d'un manque d'adoration. Mais c'est dit quand on devient des petits vieux garçons ou des petites vieilles filles, parce qu'il y a un manque d'adoration. Quelqu'un qui a une âme religieuse ne vieillit pas intérieurement. Ça qui est extraordinaire. Il y a quelque chose de très très grand. Parce qu'on est proche de la source. Quand on est proche de la source, on ne vieillit pas. Parce que le propre justement de celui qui naît, c'est d'être conjoint à sa source. Donc si on est conjoint à la source, on ne vieillit pas. Et dans l'adoration, on est conjoint à la source de notre être, de nous-mêmes. Vous voyez, c'est quelque chose de très fondamental, l'adoration. Et ça, il faut le saisir, il faut le comprendre. Acte d'amour qui reconnaît qu'on est totalement dépendant dans les mains du Créateur, de notre Père. L'adoration va donc mettre en nous un état particulier. Et je dirais que l'adoration nous met dans cet état d'abandon. Ça se tient. C'est très proche l'adoration et l'abandon divin. C'est très proche l'acte créateur et la providence. L'abandon, c'est se remettre à celui qui est providence. Et celui qui est providence, c'est le créateur. Et là, il y a un lien très très fort entre les deux. Je crois qu'on ne peut pas s'abandonner sans l'adoration. pas d'angoisse. Comment voulez-vous être abandonné si vous êtes angoissé? C'est impossible. C'est pour ça que l'abandon naît de l'adoration. Est une adoration répétée. Une adoration qui ponctue notre journée. Et dès qu'on n'adore plus, on risque d'être dans l'angoisse par le fait même d'être agité et replié sur soi. Celui qui est abandonné n'est pas replié sur lui. Il dépasse sa condition d'être contingent, d'être fragile, parce qu'il est dans les mains de Dieu, il est dans les mains du Créateur, il est dans les mains du Père. Alors, comprenons bien que cet abandon religieux, cette remise complète entre les mains du Créateur, dans la sagesse du Créateur, cet abandon n'est pas du tout l'abandon psychologique. L'abandon psychologique est la caricature de cet abandon religieux. L'abandon psychologique, on sait très bien ce que c'est. Celui qui est abandonné psychologiquement, c'est celui qui n'a aucune détermination. Il lui manque des vertèbres. C'est un retour, vous voyez, à une attitude océanique, le complexe océanique. On retourne dans le sein de la mer. On fait la planche. On se laisse aller. J'ai abandonné. C'est pas une qualité. C'est même très dangereux. Parce que je crois que quand tu es abandonné psychologiquement, très très vite on tombe dans l'angoisse. Très vite. L'abandon psychologique, on peut être conscient d'être abandonné psychologique. Vous voyez, des gens qui manquent de volonté. Il faut un acte de volonté le matin pour s'éveiller. Et c'est tout juste. C'est tout juste. En rouspétant. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Oh, je devrais dormir encore. Oh, et puis ce réveil automatique, effrayant, puisque tout le monde doit se réveiller, même ceux qui n'ont pas dormi. On est de mauvaise humeur. Cette mauvaise humeur, avec un manque de volonté, nous conduit très vite dans cette attitude d'abandon psychologique. Je me lève parce qu'il faut se lever. Parce qu'il faut se lever. Pas du tout nous-mêmes qui nous voulons. Je me réveille parce qu'il faut. Et alors, on suit le programme de la journée sans aucun acte personnel. Tout est fait parce qu'on doit le faire. Parce que c'est l'heure. Alors on doit le faire. C'est automatique. Alors, très vite, on glisse, et l'angoisse psychologique nous saisit. C'est pour ça que c'est très très important pour nous, parce que nous sommes dans un monde où, de fait, les gens sont téléguidés par la télévision. Ils sont téléguidés, ils sont abandonnés. Ils ne savent plus. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui vraiment prennent en main leur vie. Et on peut même traîner ça dans la vie religieuse. Puisque dans la vie religieuse, il y a un programme de vie. Donc on peut très bien. Et alors au bout d'un certain temps, à la place que la vie religieuse nous fortifie, la vie religieuse nous annihile. Il y a une régression. On était plus vivant avant. Et on accuse la vie religieuse. Mais c'est pas la vie religieuse, c'est vous. N'avez pas su utiliser cette chose étonnante de la vie religieuse. Vous avez laissé l'imaginaire s'emparer de vous. Vous aviez une tendance à ça. Vous avez une tendance par le dilettantisme. Oui. Le dilettantisme et l'abandon psychologique, ça se tient. C'est un manque complet de volonté. Or, l'adoration nous rééduque dans la volonté. Celui qui serait fidèle à ses 7 actes d'adoration par jour, au bout d'un an, pourrait récupérer une volonté. Ça, j'en suis sûr. On est responsable en face de Dieu de ça. On peut très bien récupérer sa volonté. Et donc, dépasser toutes ces espèces d'angoisses imaginatives. Dépassé par une volonté toujours plus grande. Vous voyez, il est nécessaire, le Père Douaume disait toujours ça, dans la vie religieuse, il y a un aspect sportif. Ce que Saint Paul nous montre, jusqu'à 45 ans, on doit être un peu un sportif. Après 45 ans, on peut prendre une attitude un peu différente. Plus contemplative. Mais l'aspect sportif, c'est s'éduquer soi-même. S'éduquer soi-même. C'est très bien ce que ça représente. Un match de football. On s'éduque. Et celui qui est dans le dilettantisme, celui qui est abandonné psychologiquement, on le met à côté. Plus besoin, c'est un poids lourd. Je crois que c'est très important, cette éducation de notre volonté par l'adoration. Revenir tout le temps. Alors ne disons pas, j'ai pas de volonté. Mais vous n'en avez pas, c'est vrai, je constate. Pas la peine de le dire.